France Culture.
Et les midis reprennent la mer, effectivement. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. À 13h, je recevrai le photographe et plasticien Smith. Mais tout de suite, c'est le Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. La 5e conférence des ministres de la Culture et de la Francophonie s'est tenue la semaine dernière à Québec et elle s'est conclue par l'adoption d'une déclaration commune pour soutenir la diversité des contenus culturels francophones dans l'espace numérique. La francophonie sur le web, c'est le dossier du Point Culture du jour. Diana Ramarotra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du département de la langue française à l'Organisation internationale de la francophonie. Je voulais revenir avec vous sur les engagements pris par les ministres de la culture et de la francophonie de 93 États la semaine dernière, c'était à Québec. Et ces engagements concernent notamment l'espace numérique. Est-ce qu'il y a une crainte d'uniformisation de la langue française et que proposez-vous pour y remédier ?
Alors oui, tout à fait. Les ministres de la Culture se sont réunis à Québec la semaine dernière et une déclaration a été adoptée, notamment pour ce qu'on entend par la découvrabilité des contenus culturels francophones. Parce qu'il faut savoir que les contenus francophones ont tendance à être invisibilisés vu que les algorithmes actuels sont donc toutes faites en anglais. Et donc, il y a ce danger que le français diminue et aussi un danger par rapport à la diversité des contenus, donc la diversité culturelle, sachant que nous, la francophonie, cela c'est quand même notre ADN de défendre la diversité culturelle. Donc concrètement, de quoi il s'agit ? Il s'agit donc d'avoir des politiques publiques qui puissent défendre cette diversité culturelle dans l'environnement numérique, mais il s'agit également de pouvoir soutenir la création de qualité, la production locale au sein de tous les pays, afin que ces productions francophones de tous les pays de la zone puissent être vues et disponibles dans l'environnement numérique. Et enfin, il s'agissait aussi de pouvoir sensibiliser le public à consommer ces contenus culturels francophones afin de pouvoir alimenter les algorithmes pour que l'on puisse apparaître dans toutes ces métadonnées. Et donc, c'est tout cet ensemble-là que nous entendons par découvrabilité et que nous avons discuté au cours de cette conférence.
Alors on peut prendre l'exemple aussi de TV5 Monde, hein, que vous citez d'ailleurs dans la déclaration officielle. Comment cette plateforme audiovisuelle peut-elle prendre sa part ?
Alors, il faut savoir que justement que TV5 Monde est un opérateur de la francophonie. Donc nous travaillons avec TV5 Monde où on soutient beaucoup la production de divers pays et on les met sur la plateforme TV5 Monde Plus. À titre d'exemple, nous avec TV5, on a collaboré, on a soutenu 61 productions qui sont sur cette plateforme et on fait en sorte que ils soient visibles. Et actuellement, on a à peu près 1,5 million de vues de ces productions que nous avons soutenues ensemble. Et c'est pas simplement sur TV5, mais sur toute autre plateforme. Donc c'est aussi donc d'alimenter plus de contenu, donc d'alimenter les plateformes et les algorithmes, et aussi de l'autre côté d'avoir une consommation qui puisse augmenter.
Vous disiez aussi donner le goût aux internautes de consommer ou en tout cas d'aller voir des produits en langue française dans l'espace numérique. Comment on cultive ce goût-là pour le français ?
Alors, comment cultiver ce goût ? Ben déjà par faire de la vulgarisation, de la promotion de ces contenus, ben via le numérique. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'informent sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, juste pour vous donner un exemple que Éric Chacour, qui est donc notre lauréat des prix des 5 continents au sein de la francophonie,
est un écrivain québécois.
Qui est un écrivain québécois qui a expliqué que il a fait une vente de 300 000 livres donc et dont 85% étaient en dehors du Québec, mais que par exemple la consommation numérique dans le livre audio et autres ne représentait que 5%. Par contre, en étant lauréat de tous ces prix, il a décidé d'être sur Instagram, ce qu'il n'avait pas fait auparavant. Et donc, à travers Instagram, il a pu faire une promotion et être un peu au service et être visible auprès de la jeunesse. Et ce qui a permis donc d'augmenter ses ventes au fur et à mesure et d'avoir aussi ce débat dans l'environnement numérique sur le livre, sur le français, sur les contenus francophones. Donc, tout ça, on va dire, incite et fait la promotion de la langue française et des contenus culturels francophones.
Dans cette déclaration officielle, vous insistez aussi beaucoup sur la formation. Alors, sur quoi devrait-elle porter et à qui elle s'adresse, cette formation ?
Alors, la formation s'adresse à différents niveaux, notamment déjà pour commencer à tout ce qui est, ce sont les producteurs, les artistes, pour qu'ils puissent avoir, ils puissent répondre à différents cahiers des charges des plateformes, par exemple, mais aussi pour qu'ils puissent comprendre l'écosystème, parce que il y a différents maillons au niveau de la chaîne de valeur. Donc, il n'y a pas simplement la production, il y a aussi comment le distribuer, comment le diffuser. Donc, on fait aussi, nous, au sein de l'OIF, des formations pour les producteurs et les distributeurs, comment faire un contrat et comment démarcher auprès de ces plateformes, et pas simplement les plateformes numériques, mais aussi, par exemple, la télévision et autres. Et de l'autre côté, on fait aussi une formation envers les décideurs publics, parce que le numérique et notamment l'intelligence artificielle aujourd'hui sont des enjeux importants, et parfois les décideurs politiques n'en comprennent pas nécessairement tous les aspects techniques, on va dire, et donc ça, c'est important pour qu'ils puissent légiférer. Il faut qu'ils puissent être à même de comprendre comment cela fonctionne. Et donc, nous faisons aussi des formations auprès de ces décideurs publics.
Alors, vous venez de parler de l'intelligence artificielle. C'est en effet la grande question qui agite toutes les sphères de la société, et notamment culturelle. Comment l'IA peut se mettre au service de la diversité linguistique de la francophonie ?
Alors, l'IA, nous, on essaie de voir l'IA comme pas un ennemi, mais comme un accompagnateur. Donc, nous, on forme justement les opérateurs à comment utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable. Donc, c'est-à-dire que on a des indexations des données qui sont faites avec le français, et que l'on puisse avoir aussi des algorithmes qui sont faits par le français, parce que actuellement, tout ce qui est intelligence artificielle est fait avec l'anglais, ce qui fait que elle n'est pas capable d'identifier ou de mieux analyser tout ce qui est francophone. Donc on fait aussi cette action là et puis donc justement, comment utiliser l'intelligence artificielle, il peut faciliter le travail de création, comme il peut faciliter également le travail de production. Par contre, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de mettre aussi cette question d'éthique, de faire attention aux sources que l'on utilise et de les citer pour ne pas, pas piller, puisque c'est aussi un peu ces grands, ce qui est mentionné par les artistes qui refusent un peu ou qui se sentent un peu en danger de voir leurs œuvres pillées. Donc nous, on fait aussi cette sensibilisation, on utilise l'intelligence artificielle de manière responsable, de bien vérifier les sources et si source, d'avoir aussi tout ce qui est droit d'auteur et de contacter les auteurs en question.
Bien, merci beaucoup Diana Ramarotra.
Merci beaucoup à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, le centre Pompidou s'exporte au Brésil.
Oui, dans l'état du Paraná, au sud du Brésil, ce centre Pompidou version brésilienne doit ouvrir ses portes fin 2027. Le bâtiment va être réalisé par l'architecte paraguayen Solano Benitez, spécialiste de la brique et des matériaux bruts. Selon le ministère de la Culture, ce nouveau centre artistique abritera des espaces pluridisciplinaires, des ateliers éducatifs, une bibliothèque de recherche, des laboratoires artistiques ainsi qu'une offre de restauration et de boutique. Il aura notamment pour ambition de valoriser la création contemporaine sud-américaine, même si les expositions qui vont y être présentées vont faire appel principalement à la collection de Beaubourg. Le centre Pompidou est déjà présent à Malaga, Shanghai ou encore Bruxelles, de quoi faire vivre les 150 000 œuvres d'art du musée qui, à Paris, a fermé ses portes pour au moins 5 ans de travaux.
Et pour finir, Marie, le Palais de la Découverte craint d'être absorbé par son voisin, le Grand Palais.
Oui, le 20 mai, les salariés du musée dédié aux sciences apprenaient que la réouverture partielle du lieu en juin, avant sa réouverture totale prévue en 2026, était annulée. Officiellement, c'est lié au retard des travaux de rénovation qui ont débuté en 2020. Mais en toile de fond, le flou règne sur l'avenir du Palais de la Découverte qui avait annoncé la tenue d'un festival dès cette année, avant d'être contredit par le ministère de la Culture. Le bâtiment qui abrite le musée jouxte le Grand Palais, qui ne cache pas son ambition de s'y installer. Face au manque d'informations, l'Académie des sciences elle-même a appelé les autorités de tutelle, et en particulier le ministère de la Culture, à rendre public un programme clair qui porte sur l'ensemble du projet, sur son organisation et son déroulement calendaire.
Merci Marie, et on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.